Culture sans frontières, au croisement des regards et des inspirations pour dessiner les territoires de la création. Une émission présentée par Isabelle Gilloire et Valentine Francène sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture sans frontières. Depuis bientôt un an, la Covid-19 bouleverse notre quotidien et nous oblige à réinventer nos vies et nos rapports sociaux. En 2020, l'épidémie de la Covid-19 a pesé sur les soins et le moral des Français, bouleversé leur quotidien, ponctué l'année de confinement et de couvre-feu. Le début 2021 reste anxiogène malgré les espoirs de sortie de crise suscités par la vaccination. On se souvient des premiers mots d'Emmanuel Macron, il y a presque un an, jour pour jour.
Je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix.
Bonjour Isabelle et bonjour à tous. Merci pour cette piqûre de rappel. L'anthropologue Michel Agier expliquait il y a peu que cette crise est, je cite, « un fait social total qui bouscule toute la société, c'est une rupture, une sorte de catastrophe qui est en train de radicalement changer l'organisation de la vie des humains en société. On s'y retrouve confronté brusquement. » Comment la culture a-t-elle survécu à cette crise ? Comment les artistes et les institutions ont réagi et se sont engagés pour maintenir la culture en place ? La culture au temps de la Covid-19, c'est la thématique de notre émission aujourd'hui.
Pour répondre à nos questions et débattre sur le sujet, avec nous, Nicolas Duftel, chercheur au CNRS et maire adjoint élu à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers. À nos côtés également, Mirabelle Ordinaire, metteur en scène d'opéra, librettiste et traductrice, membre des Stage Directors du Metropolitan Opera de New York.
En studio également avec nous aujourd'hui, Erika Thalberg, qui vous donnera son coup de gueule culture et société, et Hugo Spini, notre œil expert des réseaux sociaux, pour sa chronique Culture en progrès.
Culture sans frontières, sur Radio Territoria.
On démarre la première partie de notre émission avec le ressenti face au confinement. Isabelle.
Selon l'étude de Rebuilding Europe, la culture a perdu en Europe 31% de son chiffre d'affaires, soit 199 milliards d'euros par rapport à 2019. De manière générale, c'est le deuxième secteur le plus affecté par la crise sanitaire, un peu après l'industrie aéronautique, mais avant le tourisme. Si l'on regarde maintenant par sous-secteur, on constate que cette faillite est massive en 2020. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires pour le théâtre et le spectacle vivant a chuté de 90%, tandis que celui de la musique a baissé de 76%. Tous les autres sous-secteurs sont affectés, que ce soit les arts visuels, l'architecture ou la presse. Seuls, les jeux vidéo connaissent une augmentation d'environ 10% par rapport à 2019. Cette étude ne permet pas encore de connaître la perte du nombre d'emplois dans ces différents secteurs culturels, cette perte étant difficile à calculer en raison des aides d'État. Bonjour Nicolas Duftel.
Bonjour Isabelle.
Je rappelle que vous êtes maire adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers depuis mai 2020, mais également musicologue, chercheur au CNRS. En tant qu'adjoint à la culture, mais aussi acteur sur la scène musicale française, qu'avez-vous ressenti à l'annonce de ce premier confinement ? Comment une ville et comment un adjoint à la culture propose-t-il des réponses face à cette annonce ?
Je crois, Isabelle, qu'il faut reprendre l'expression que vous avez vous-même utilisé en parlant de l'impact sur le moral, sur l'espérance de l'ensemble des personnes, qu'elles soient le public ou qu'elles soient les artistes. Et c'est aussi un état de choc, c'est-à-dire qu'on a pris conscience de quelque chose qui était inimaginable. Enfin, peut-être était-il imaginable, mais on ne pensait pas que ça pourrait arriver, c'est pas la même chose. Et dans mon cas, celui d'un élu au mois de mars, souvenons-nous du de ce premier tour, hein, des élections compliquées. On est élu au moment où le confinement arrive. Pendant plusieurs semaines, on ne peut pas être installé. Et on est installé au mois de mai, lorsque se profile un déconfinement progressif. Et donc la vie républicaine peut commencer à se remettre en marche. C'est fin mai que le conseil municipal, par exemple, à Angers, a pu se réunir, c'est-à-dire plus de 2 mois après avoir été élu. Et tout de suite, la réaction, elle a été que peut-on faire ? Que doit-on faire pour aider les gens ? Que ce soit encore une fois les artistes et le public. Ça, à chaque fois, dans mes paroles, ça sera quelque chose de très important. Un adjoint à la culture, il est adjoint pour les citoyens, mais aussi pour les artistes et pour les intermittents, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient artistes. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est que déjà, on parle avec le maire, Christophe Béchu, qui avait décidé que la culture serait une priorité de son mandat. Et on décide rapidement de maintenir les budgets culturels aux associations. Même si les projets ne sont pas réalisés, on maintient les subventions pour que l'économie puisse continuer. Ensuite, on essaye d'imaginer comment se glisser dans les possibilités qui existent malgré tout dans les failles, en tout cas dans les interstices des conditions sanitaires. C'est par exemple pas tout basé sur le numérique. C'est par exemple se dire que la fête de la musique, qui d'habitude réunit des milliers de personnes dans les rues, on va la maintenir quand même, mais que pour une fois, ça sera la fête de la musique des professionnels. Et donc, on organise sur le Grand Théâtre de la Ville un stream, un live de 9 heures, retransmis sur YouTube, par exemple, avec un éventail de l'ensemble de la scène musicale angevine, des groupes de rock jusqu'à l'Orchestre National des Pays de Loire, l'opéra, des groupes de rap, des chanteurs pop, etc. 9 heures de stream, et le budget qui d'habitude est utilisé, on va dire, pour la manutention de la fête de la musique, ben là, il est utilisé pour payer des cachets d'intermittents sur les artistes. Vous parliez du jeu vidéo, et ben c'est par exemple un des animateurs du Muséum d'Histoire Naturelle qui a eu l'idée de faire des séances de Animal Crossing, un jeu très fameux par exemple, et qui a invité à faire des visites par ce jeu vidéo de notre muséum. Ça a été aussi, au fur et à mesure que les semaines arrivaient, et une réadaptation perpétuelle. Un équilibre entre ce qu'on ne peut pas faire à long terme, mais ce qu'on doit faire à court terme, parce qu'on le peut. Par exemple, la programmation estivale d'une sorte de festival, ça n'en avait pas le nom, mais on a sanctuariser un jardin dont on pouvait maîtriser la jauge, 200, 250 personnes, ça passe par les lieux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur les lieux où on peut se retrouver et faire des choses. Et la programmation de théâtre, de danse, de musique, concrètement 1700 heures d'intermittence qui ont été créées dans ce petit jardin, et en déambulation dans les villes, dans les quartiers, en pied de bâtiment. Ce sont les structures nationales, par exemple, on a la chance à Angers d'avoir un CDN qui est dirigé par Thomas Joly, et puis un CNDC, c'est-à-dire un centre de chorégraphie nationale dirigé par Noé Soulier, qui arrivant, eux, après quelques mois, hein, parfois quelques semaines au début de leur mandat, eh bien, ils décident aussi de prendre le taureau par les cornes et puis de proposer des choses. Donc en fait, il y a eu des solutions trouvées, des offres offertes grâce à la malléabilité et à l'ingéniosité dont peuvent faire preuve les collectivités territoriales et tous ces agents qui sont sur le territoire.
Oui, c'est ça finalement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début de votre mandat, Nicolas Duftel, vous n'avez pas forcément eu à annuler des événements, mais plutôt à les réinventer.
On les a réinventés. Alors, il y a des choses qu'on a dû annuler, très clairement. Un grand festival qui devait avoir lieu en septembre, qui s'appelle les Accroche-Cœurs, qui réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue, dont l'essence même est la fête, les retrouvailles insouciantes. Ça ne pouvait pas être organisé. Donc, on n'a pas remplacé. On a essayé de compenser en offrant du travail aux artistes, aux techniciens, mais aussi en offrant de l'évasion au public.
Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Nicolas. Alors, effectivement, on le sait, depuis mars 2020, à cause de la crise sanitaire, quasiment plus aucun concert n'a lieu, aucune tournée, aucun spectacle. Et nous n'avons, c'est vrai, pas encore de visibilité pour la reprise. L'ensemble de la filière est dans une situation que l'on peut qualifier pour l'instant de préoccupante. Bonjour, Mirabel Ordinaire. Je rappelle donc que vous êtes metteur en scène d'opéra, librettiste, traductrice. Vous travaillez régulièrement avec l'Opéra de Paris et la Philharmonie de Paris également. En tant qu'artiste, on vient d'écouter du coup Nicolas Duftel parler de ressenti face au confinement. Vous, en tant qu'artiste, quel a été l'impact justement de ce confinement ?
Le premier impact a été immédiat, c'est-à-dire que moi j'avais un concert que je mettais en scène à la Philharmonie le 15 mars. Et donc, j'ai appris 2 jours avant, le jour de la générale, qu'on ne pourrait pas faire ce concert. Donc, on était très, très tristes, très déçus, parce que c'est des mois de travail toujours pour arriver, voilà, qui tombe à l'eau. Alors, on va essayer de le reprogrammer. Mais bon, c'est toujours un moment un petit peu décevant. Et moi, en fait, j'ai vécu ce confinement. J'ai une fille qui est en maternelle, donc il fallait que je m'en occupe à plein temps avec mon mari. Donc on est parti dans les Vosges, d'où je viens. Et on est resté là-bas, un peu en vase clos, pendant 3-4 mois. En essayant malgré tout de rester bien sûr ouvert sur la culture, ce qui nous fait avancer. Mon mari est compositeur et saxophoniste, donc lui avait pris son saxophone, il a beaucoup joué pour les vaches dans le pré. C'était une façon aussi de continuer à faire de la musique. Et je suis restée aussi beaucoup en contact avec mes collègues du Metropolitan Opera à New York. Je devais repartir là-bas en avril-mai, et puis pour toute la saison cette année. Et le Met est enfermé depuis le mois de février. Du coup, je n'y suis pas, mais on est resté en contact très proche.
Et justement, je me posais la question aussi, parce qu'on a les artistes et le monde culturel a quand même été très marqué par ce stop and go pendant l'année 2020. Comment est-ce que vous avez réagi? C'est-à-dire, est-ce que finalement ces stop and go n'agit pas aussi sur la créativité et l'enthousiasme d'un artiste?
Un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fois, en fait, c'était assez intéressant pour moi de pouvoir comparer les deux formats. À New York, on a su que le Met allait être fermé toute la saison. Donc au moins, il n'y avait pas de surprise. On savait que pendant un an, on n'allait pas pouvoir travailler. À Paris, moi, j'avais un spectacle prévu au mois de novembre et j'ai appris 2 jours avant le premier jour des répétitions qu'on n'allait pas le faire. Donc je m'étais préparée, j'avais réorganisé les choses pour que ce soit compatible avec les gestes barrières. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, à la fois, j'étais très heureuse de pouvoir refaire marcher mon cerveau et ma créativité en préparant les choses. Donc ça, c'était super. Et puis c'est vrai qu'après, on est quand même déçus quand ça ne va pas. Donc... quand ça se passe pas. Là, je suis en train de préparer un concert à la Philharmonie qui n'est pas encore annulé. Donc voilà, on est en train de répéter. Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus manqué pendant tous ces mois, c'était de répéter.
Oui.
D'être là, de pouvoir faire mon travail avec les artistes. Bon, évidemment, de le partager avec les publics, mais c'est vrai que les répétitions m'ont beaucoup manqué. Et donc, j'ai été très heureuse que de pouvoir maintenir quand même ces répétitions, même si au final ça n'aboutit pas. Ça, je trouve que c'était bon pour le moral, en fait.
Oui, c'est important.
De se dire qu'on sait toujours faire notre métier, qu'on peut toujours le faire, c'est vraiment... je pense à tous les musiciens d'orchestre qui ne peuvent plus jouer avec leur... ou qui, pendant un moment, n'ont pas pu jouer. C'est vrai que moi, je ne peux pas travailler si je n'ai pas d'artistes autour de moi. C'est mon métier, en fait, c'est de rassembler des gens et de faire qu'ils travaillent ensemble.
C'est essentiel.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, voilà. Donc
on va passer, à la chronique culture, donc avec nous aujourd'hui Erika Thalberg, pour nous faire part de son coup de gueule, puisque la culture, ne l'oublions pas, est une affaire de société.
Culture sans frontières, sur Radio Territoria.
Je suis non essentielle. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la dame là qui l'a écrit sur son bout de carton. Elle là, elle est non essentielle. Comme nous tous, ce 15 décembre 2020, sur la place de la Bastille et d'autres places en France. Nous, cinéastes, comédiens, techniciens, circassiens, administrateurs, auteurs, danseurs, chanteurs, penseurs, voilà le gros mot quoi, penseurs, les surhommes, tiens. Nous, donc, qui manifestons pour la réouverture des lieux culturels. Il me coupe la parole et me dit « Ouais, enfin, vous manifestez pour pouvoir bosser, c'est pas une question d'essentiel, sois pas hypocrite, vous vous emmerdez, c'est tout. » Attends, rappelle-moi pourquoi je t'ai appelé toi, déjà ? Parce que t'as envie de te plaindre à quelqu'un qui supporte pas ça, qui va te dire « Bah ouais, aujourd'hui vous vous sentez seul et il est temps que ça vous pète à la gueule. » Tu fais des rimes, toi, maintenant ? Mais putain, vous faites une manif un mardi à midi, vous le faites exprès ? Même pour manifester, vous préférez être dans un entre-soi. Il manque plus que le petit cocktail et vous avez recréé votre habitat naturel. Ouais, je sais, j'ai entendu, je continue dans les rimes. Non mais, c'est symbolique le 15 décembre, ok ? Ok. Mais aujourd'hui, il y en a qui bossent. Désolée pour ta symbolique. Au moins, la manif contre la loi sécurité globale, ils étaient pas cons, ils ont fait ça un samedi avec la bonne météo et il y avait du peuple pour le coup. Mais nous, tu vois, le 15 décembre, on était prêts, on devait rouvrir, on devait revivre. Revivre ? Non mais tu t'entends. Et votre année blanche, là, t'as 1 an de vacances tout frais payé. Je lui raccroche au nez. Je préfère éviter le débat sur l'intermittence, je sais comment ça finit avec lui au repas de Noël ou par téléphone. J'avais juste envie de dire à quelqu'un que jamais j'aurais cru qu'un jour, en France, j'aurais manifesté pour que l'art, la culture, le spectacle vivant vivent. Ou alors j'avais juste envie de me plaindre, il a peut-être raison. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an pour se faire entendre, pour se rendre essentiel? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'autre, il a répété « nous sommes en guerre ». En temps de guerre, je crois que les artistes étaient un brin plus engagés. Attention, il ne s'agit pas de faire comme si cette chose qui plane au-dessus de nos têtes depuis un an n'existait pas. Je dis juste que, puisqu'on est dans un bal masqué des plus anxiogènes, autant pousser la dystopie jusqu'au bout. Ok ? Supprimons ce qui n'est pas essentiel. Supprimons la musique que tu écoutes pour bien commencer la journée. Supprimons les tableaux qui te font voyager parce que, bah là, non, c'est pas hyper conseillé en ce moment. Supprimons la librairie dans laquelle tu t'es précipité à l'annonce du second confinement qui n'en était pas vraiment un. Ah bon, ah mince, on te l'avait pas dit. Supprimons Netflix. Ah, le 7e art, poubelle. Et le 10e aussi, celui des jeux vidéo. Fini les parties de FIFA entre potes. Et l'architecture aussi, on démolit tout. Et puis, oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bouges comme ça, là? Si, j'ai vu ton bassin, tes épaules. Ça ressemblait à de la danse. Et arrête de bouger. Mais tu sais quoi? Arrête de parler parce que ça va ressembler à un chant ou pire, à de la poésie. J'exagère? Moi? En fait, je voulais juste corriger un abus de langage. Ils ont dit essentiel, mais ils voulaient dire capital. Tu comprends? Capital. Le profit, la productivité télétravaillable. La thune, quoi. Alors qu'on pèse plus lourd que l'industrie automobile. Enfin, qu'on pesait plus lourd. À la prochaine manif qui devra donc avoir lieu un samedi ensoleillé, et en attendant d'être révolutionnaire, c'est ça que j'écrirai moi sur mon carton. Je suis non capitale.
La culture non capitale. Merci Erika. Pour aborder la deuxième partie de cette émission, comment la culture se réinvente à l'heure de la Covid-19, nous écoutons un extrait de Fallon, un opéra-série inspiré de la Traviata de Verdi.
Well, you want her, you can have her for the small nightly fee of... What is it? What's the matter? Her nightly fee is $17,000. $17,000. But that's a quarter of my yearly salary. Well, there you have it. She is out of your league.
I know.
I need to reach her. I have so much to say. I need a chance to tell her there is another way. She's better than this.
I just say she's out of your league.
I can show her. $17,000.
I really need to show.
To find a way.
Culture sans frontières sur Radio Territoria.
Mirabelle Ordinaire, nous venons d'entendre en avant-première un extrait de Fallon, un opéra-série inspiré de la Traviata de Verdi. Cet épisode pilote a été enregistré les 25 et 30 janvier 2021 au studio The Bridge à Williamsburg, à New York. Dans le rôle de Purple, nous avons entendu la soprano Brandy Sutton. Dans le rôle de Fred, le ténor Stephen Costello. Et celui de Gaston, c'était le baryton Justin Austin. Mirabelle, vous avez donc imaginé une mini-série opératique autour de cet opéra légendaire avec le compositeur Patrick Zimmerli. Cette initiative est selon vous, je cite, pour que l'opéra continue à vivre, mais aussi pour offrir à cette forme d'art, à la diffusion parfois limitée, un public plus vaste et plus jeune. Pouvez-vous nous expliquer ce projet pour le moins original et votre démarche ?
Oui, avec plaisir. En fait, c'est un projet qui est né d'un appel à projet d'un opéra régional américain. Qui demandait à des artistes ou à tout, enfin ceux qui voulaient, de soumettre un projet. Et donc on a eu cette idée. J'étais dans les Vosges avec mon mari, le compositeur Patrick Zimmerli, et on s'est dit l'opéra me manque, bien sûr, c'est ma vie, et on va essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire vivre cette forme d'art, mais que ça puisse être visible et faisable pendant ces temps de pandémie. Et du coup, on a proposé à cet opéra de faire un opéra en série, donc 10 épisodes de 10 minutes sur plusieurs saisons, donc un opéra par saison. Et l'opéra qui nous a semblé le plus approprié pour commencer, c'était donc la Traviata. Donc on s'est dit, on va partir de la trame de la Traviata, je vais réécrire le livret. Donc c'est un livret qui est écrit avec des mots de tous les jours contemporains. Une nouvelle musique, mais qui a, comme vous avez pu l'entendre, des petits échos de la musique de Verdi. Et l'idée, c'est que ça puisse plaire à la fois aux fans d'opéra, qui vont reconnaître la trame et qui vont entendre les petits clins d'œil musicaux, mais aussi plaire à tous ceux qui regardent Netflix ou qui regardent les séries américaines et qui vont se rendre compte aussi que l'opéra, c'est pas si loin en fait des séries qu'ils peuvent regarder. Voilà, donc l'idée, c'était un peu de marier les deux genres. Et puis, on a gagné cet appel à projet, contre toute attente. On était ravis. Bon, finalement, les choses ne se sont pas complètement déroulées comme prévu. Mais au final, on a pu enregistrer cet épisode pilote sous forme audio pour l'instant. On aura une version vidéo, on espère très vite. On a tout fait à distance. Donc, on a répété par Zoom. On a enregistré par Zoom en plusieurs fois.
Vous étiez en France et
voilà, nous, on était en France. Les musiciens étaient aux États-Unis. Donc, on a beaucoup parlé par Zoom, par téléphone, pour faire avancer les choses. Et puis, on s'envoyait, en fait, les enregistrements. Les chanteurs les écoutaient. Ils donnaient leur retour aux musiciens. Donc, voilà, on faisait, en fait, beaucoup d'allers-retours comme ça. Pour arriver, par contre, on a fait beaucoup de montage pour que ça se fasse de façon fluide. Voilà, c'est pas la façon idéale de faire les choses. Moi, j'ai hâte de revenir dans une salle de répétition. On peut répéter et construire tous ensemble. Mais voilà, il faut qu'on. C'était vraiment vital pour nous de continuer à faire vivre de la musique nouvelle, de faire travailler les artistes.
Oui, le numérique a été un pilier pour vous à cette occasion.
Voilà, en fait, c'était une façon d'utiliser les outils qu'on avait pour continuer à faire de la musique d'une façon, sinon complètement organique, du moins qui permettait de continuer à créer des choses nouvelles. En fait, c'est ça qui nous importait. Et voilà, donc on est très fiers de ce premier épisode. On a toute une trame donc qui va aller jusqu'à la fin de la Traviata, donc la fin de l'histoire. Mais voilà, toujours réinventer, réimaginer pour dans le New York contemporain, avec d'un dialogue contemporain comme on pourrait en entendre dans une série.
Merci Mirabel, et on espère pouvoir l'écouter très bientôt. Ces dernières années, le monde a opéré une mutation technologique, intensifiant son basculement dans le numérique. Pour proposer de nouvelles pratiques live et expériences digitales pour le public, on connaît Google Art ou encore la Microfolie, sorte de petit musée itinérant coordonné par la Cité des sciences de la Villette. On pense aussi bien sûr à Aria, un site mobile proposé par l'Opéra de Paris pour initier le grand public à l'opéra et à la danse. On constate ainsi que nous consommons beaucoup plus de services culturels en ligne que nous le faisons pour le shopping, par exemple. Cette métamorphose est peut-être la clé de la relance culturelle. C'est par l'adaptation et l'ouverture que le secteur culturel pourra rebondir. En 2021, il faut croire en ce renouveau. Nicolas Duftel, vous avez créé la série musicale en digital Angers pousse le son, comme justement une réponse à la Covid-19, afin de donner de la place aux artistes durant cette crise. Racontez-nous en quoi consiste cette série, en quoi est-ce important pour une ville de montrer son soutien aux artistes ?
J'ai la conviction absolue que les artistes ont une force de création essentielle, puissante, et qu'elle est parfois décuplée. J'ai la conviction que les artistes ont une puissance de création qui est parfois décuplé par les épreuves. On a la chance de pouvoir avoir des artistes en résidence, à Angers comme dans beaucoup d'autres villes de France. Bon, il faudra un jour qu'ils puissent produire ce qu'ils font. Et je crois que c'est essentiel d'accompagner cette puissance de création, puisque cette épreuve que l'on vit, cette pandémie, elle interroge notre faire société, notre faire cité. Et la sémantique de l'essentiel, elle montre aujourd'hui ses limites. On demande la réouverture des salles, certes. Et pourquoi cette sémantique, elle montre ses limites aujourd'hui ? Parce que d'une part, elle oppose ce qui serait essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Donc c'est déjà le premier problème. Et le deuxième, c'est que j'ai l'intime conviction que la culture, sous toutes ses formes, elle est essentielle. Parce qu'on n'est pas, lorsqu'on est un animal qui vit en cité, comme l'homme, selon la définition d'Aristote, juste destiné à se lever, à manger, à produire. C'est la vie en fait, qui compte. Et la culture, c'est la vie. Et donc, elle est essentielle. Je pense que l'équation est vite résolue de ce point de vue.
Tout à fait. Est-ce que vous pensez que, pas justement aussi, que cette crise sanitaire a peut-être aidé ou hâté, justement, au bousculement des pensées ?
Des pensées simples, parfois, en effet. J'épouse le son que vous mentionniez. C'est en fait l'idée d'avoir des lieux confinés, des lieux fermés où on ne peut pas accueillir du public, parce que, par exemple, ce sont de vieilles chapelles qui s'effondrent en partie, mais pas totalement, dans lesquelles on ne peut pas accueillir de spectacles, mais on peut accueillir pendant quelques heures des tournages. Et l'idée, ça a été de proposer la rencontre entre des lieux comme ça, des lieux oubliés, des lieux séculaires, des lieux millénaires, parfois comme l'abbaye du Ronceret à Angers, la chapelle Saint-Jean, pour qu'ils deviennent l'écrin de la création acoustique des artistes musiciens. Et donc, nous avons proposé de mettre à disposition, en invitant des musiciens, à venir se saisir de ces vieilles pierres qui, en plus, rassurent d'un certain côté parce qu'elles ont vu passer des pandémies, des pestes noires depuis plusieurs siècles. Et de proposer cette union, cette rencontre entre la musique et les vieilles pierres. Oui, sous forme numérique, mais ceci n'est pas un concert. Parce que l'idée aussi, c'est de proposer chez vous d'avoir des artistes que peut-être demain, et on l'espère, parce qu'il faut aussi planter des germes d'espérance, des artistes que peut-être demain vous aurez dans vos salles de concert ou dans vos jardins publics. Donc c'est une idée simple, marier tous les styles de musique en poussant les portes de lieux fermés. Et je me réjouis qu'elle ait rencontré un vaste succès auprès des artistes et puis auprès du public jusqu'à présent.
Tout à fait. Nicolas, je vous propose justement d'écouter un extrait de la série musicale Angers pousse le son avec la chanteuse Rosemary Stanley et la violoncelliste Dom La Nena.
Culture sans frontières, sur Radio Territoria.
On passe tout de suite à la chronique Culture en progrès avec Hugo Spini, notre œil du web. Bonjour Hugo.
Bonjour Isabelle, oui bonjour à toutes et à tous. Après la stupeur du premier confinement et face à la fermeture de leurs établissements, les lieux culturels se sont alors jetés à corps perdu sur les réseaux sociaux afin de garder le lien avec le public. Conservateurs, artistes, techniciens, danseurs, les acteurs du milieu culturel sont mis à profit afin de trouver des alternatives à l'isolement, en particulier grâce à Instagram dont l'utilisation par l'ensemble de la population a explosé durant ces mois enfermés. Chaque soirée sur les réseaux sociaux était rythmée par les Facebook Live et les Insta Live. Des personnalités et des institutions qui n'avaient jusque-là pas encore mis le pied sur ce réseau social ont créé leur compte, Instagram notamment, afin de trouver une parade à la distance et peut-être un peu pour tuer l'ennui. Parmi ces nouveaux arrivants, Fabrice Lucchini, qui postait régulièrement des vidéos de ses revisites des Fables de La Fontaine, ou bien encore le musée Anne de Bougeux de Moulins, qui profita du confinement pour dévoiler chaque jour une œuvre et les coulisses du musée confiné. Certains artistes font le show, en live, pour tromper l'ennui, comme Christine and the Queen, qui enflamme quotidiennement son Instagram avec des performances. Le classique n'est pas en reste, puisque le pianiste Igor Levit donnait chaque soir un concert d'une vingtaine de minutes en direct depuis son salon. Côté institution, il a été beaucoup plus compliqué de s'adapter rapidement à la situation. Les réseaux sociaux ont donc majoritairement servi à diffuser des contenus déjà produits. Des exceptions, notamment le musée Marmottan-Monet qui réussit à mettre en place des courtes vidéos adaptées au format IGTV, nommées Rêvons avec et entièrement réalisées en télétravail. Chaque vidéo nous invite à l'évasion dans un tableau de leur collection. Et ce sont finalement les initiatives collaboratives et ludiques qui ont le mieux fonctionné. La plus populaire fut certainement un défi lancé par trois jeunes néerlandaises, le Tussenkunst en Quarantaine, qui se traduit par entre art et quarantaine. Le but est très simple, reproduire chez soi, avec seulement 3 objets, des œuvres d'art célèbres. Le succès est immédiat puisque, à ce jour, plus de 70 000 publications utilisent le hashtag ThyssenKunst in Quarantine et le compte Instagram qui rassemble les meilleures créations des internautes est suivi par plus de 270 000 personnes. Un excellent moyen de pousser les gens à la créativité tout en s'amusant de celle des autres. Mais voilà, presque un an après, la culture ne peut toujours pas accueillir de public et l'on commence sérieusement à se lasser des captations et des visites virtuelles.
Merci Hugo, on n'oubliera pas de faire une petite story Instagram Radio Territoria pour la troisième partie de cette émission et après, les nouveaux regards.
Culture sans frontières sur Radio Territoria.
L'anthropologue Michel Agier encore affirme, je cite, « Le monde d'après n'existe pas, il est déjà là, c'est un présent qui dure ». Justement, Mirabel, comment envisager la culture maintenant? Les regards ont-ils changé selon vous?
Oui, je pense qu'ils ont, changé parce que parce qu'on n'a pas pu faire notre métier pendant un an. Donc je pense qu'il y a malheureusement beaucoup d'artistes qui ont décidé de changer de domaine. Ça, c'est triste. D'autres qui ont tellement hâte de reprendre et qui ont peut-être aussi un peu d'appréhension parce que on espère que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais c'est vrai qu'il y a, on commence à douter aussi de soi. Pas mal de remises en question. Et puis surtout du questionnement sur comment ça va fonctionner. Même si les protocoles sont mis en place, est-ce qu'on va pouvoir recommencer à faire les choses comme avant? Est-ce que c'est souhaitable aussi? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Moi, ce que j'ai envie de recommencer à travailler, ça c'est sûr, le plus vite possible. Et ensuite, voilà, les choses qu'on a découvertes. C'est vrai que j'ai découvert le monde de la vidéo que je connaissais pas particulièrement. Est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans mes mises en scène? J'espère. Et en même temps, là, ce qui me tient le plus à cœur, c'est au contraire de retrouver de la présence en vrai, avec des vrais gens dans une vraie salle, ensemble. Donc peut-être qu'il y aura aussi un effet de retour à des formes très simples, sans vidéo, sans médiation. C'est peut-être ça, en fait, que les...
De proximité.
Voilà, des spectacles peut-être de forme plus petite, mais qui vont privilégier un échange direct entre les artistes et les spectateurs, ce qui est quand même ce dont on a le plus manqué, en fait, pendant ces derniers temps.
Et Nicolas, justement, donc, est-ce que Angers pousse le son, cette série, à une vie après la Covid? Comment souhaitez-vous faire vivre et grandir cette initiative?
Oui, c'est un laboratoire, je pense, parce que le numérique est formidable. Mais pour moi, il reste un outil et pas une fin en soi. Dire le numérique, c'est formidable, mais ça dépend ce qu'on met dedans. Et d'une certaine façon, le numérique est un des symptômes du monde d'avant dont on ne veut pas. Donc n'en faisons pas la solution. Il y a un certain paradoxe à ça. Angers pousse le son, c'est de la rencontre. La rencontre entre un lieu, son histoire, des artistes, une invention perpétuelle, la création, le partage. On a besoin de rencontres. L'outil, le laboratoire que peut être cette série musicale, c'est par exemple de créer de la familiarité entre des artistes et le public. Mais surtout que ça soit un jalon et qu'on puisse proposer dans quelques mois, lorsqu'on pourra, à ce que ces mêmes artistes qu'on aura eu chez nous, ils viennent en vrai et qu'on les rencontre. Et en effet, dans des formes simples, des petits de jauge très certainement. Et le monde de la culture a montré sa capacité à gérer des mi-jauges, des tiers de jauge dans les théâtres, les salles de concert. Donc c'est pour ça qu'il faut les réouvrir. Il faut faire de la musique dans les jardins avec le beau temps qui va arriver. Et je suis convaincu que cet outil magnifique qu'est le numérique, il peut être une solution à la crise si on l'approche avec un sens critique, avec un regard rétrospectif sur ce que l'on ne veut plus et sur le besoin absolu qu'on a aujourd'hui de se retrouver et de partager tout simplement.
Merci Nicolas, merci à tous, merci Mirabel.
Vivement qu'on se retrouve tous en vrai sur scène.
Espérons se retrouver tous dans
cette salle.
Voilà, bientôt.
C'est ça.
Cette émission a été préparée et présentée par Isabelle Gilloire et Valentine Francène, est réalisée par Baptiste Plouchard. Merci, à bientôt dans Culture sans frontières. On se quitte avec un extrait encore de Angers pousse le son et la chanteuse Yael Naïm, accompagnée de l'ensemble Zéné. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur angers-pousse-le-son.fr.
Mieux comme quand il pleut, comme au milieu d'un adieu silencieux de notre rêve. Je me suis réveillée. Vie, tu as choisi pour pour avancer, ni remords, ni regrets. Mais si tu pouvais retrouver l'envie, so how will I know right from the start?
Culture sans frontières, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.